Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Bonjour les filles et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission Judaïsme au féminin. Alors comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne connaissent pas encore notre émission, je vous rappelle que chaque semaine, nous essayons ensemble de nous poser, de réfléchir, de chercher des réponses à nos questions, à Avodat Hashem, dans notre manière de servir Hashem, dans notre manière de vivre notre judaïsme, à travers tantôt la paracha, tantôt s'il y a une fête ou un événement important dans le calendrier juif. Et donc cette semaine, comme on l'a un petit peu fait dans les semaines précédentes, on est en train d'analyser ensemble la sortie d'Égypte. Donc on sait que cette semaine, nous lisons la troisième paracha du Sefer Shmot. Donc on sait que nous avons cinq livres de la Torah. Cinq livres de Torah, Chamisha Chumshei Torah, Bereshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Nous avons entamé la lecture du deuxième, du Sefer Shmot. Et nous avons donc eu la parachat Shmot, ensuite la parachat Vaera, et cette semaine, la parachat Bo. Et donc, on a expliqué beaucoup de notions très importantes. Et comme je l'ai dit il y a deux semaines, je pense, c'est la Torah, elle est intemporelle. Et tout ce qu'on va étudier sur la sortie d'Égypte, cela nous concerne, cela nous donne des kélim, des outils pour nous aider à sortir de notre galoute, de notre exil actuel. Donc aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on continue notre étude autour de la sortie d'Égypte, autour de la parachat Bo. Et on y va. Une petite pause pour vous mettre en place. Et Be'ezrat Hashem, une belle étude aujourd'hui qui va nous donner beaucoup, beaucoup de kochot. Je vous attends. À tout de suite.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le Gan, c'est la sauce de la vraie Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ichement, mizvota, de garder le mizvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous. Question de Halakha, besoin d'un conseil personnel, avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets, Shabbat, couple, kashrout, conversion, loi de deuil. Question au Rav, ces 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.
Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite Léa Benaïm.
Voilà, donc bienvenue sur Judaïsme au féminin. On va, comme je vous l'ai promis avant la pause, on va un petit peu se poser des questions sur la parachat Bo et découvrir des merveilles que les Mefarshim, les commentateurs, viennent nous enseigner. Et comme je vous l'ai dit, pourquoi est-ce que c'est tellement, tellement important et intéressant d'étudier la sortie d'Égypte ? Parce que nous voulons sortir de cet exil. Nous voulons Mashiach. Et nous allons découvrir Be'ezrat Hashem grâce à l'étude des deux personnages clés de cette paracha, qui sont Paro et Moshe, Paro, Pharaon, et Moshe Rabbeinu, à travers le fait de découvrir qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, et quelles étaient leurs armes, parce qu'en vérité, c'est bien un combat, c'est presque une lutte entre Paro et Moshe. Bien sûr, Paro, lorsqu'il il s'oppose à Moshe, c'est à Kadosh Baruch Hu, c'est à Hashem qu'il s'oppose, et on va essayer de découvrir donc qui est Paro, qui est Moshe, pour découvrir qui est Paro à l'intérieur de nous. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé un petit peu les semaines précédentes. Et découvrir également qui est Moshe. Moshe est le tzaddik. Moshe est celui qui va nous se faire sortir d'Égypte, qui le messager d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière que Mashiach nous sortira de cet exil. Donc je vous propose d'abord de regarder un petit peu, de se poser sur le nombre de fois où apparaît le terme cœur dans ces parachiotes. Le cœur de Paro est énormément mis en avant. Le nombre de fois où on nous dit que Paro renforce son cœur est impressionnant. Et en plus, très souvent, même la syntaxe de la phrase est la même. Comme si qu'on veut nous mettre en avant combien est-ce que le cœur de Paro était dur, puisque c'est les mots qui sont employés. Je vous lis juste quelques-unes de ces références, mais si vous voulez ouvrir un chumash et lire en français même, le nombre de fois où on nous dit que le cœur de Paro se renforça, se rendurcit, c'est impressionnant. D'ailleurs, vous savez qu'il y a 10 makotes, il y a 10 plaies. D'accord ? Les 5 premières makotes, les 5 premières plaies, alors on voit que Paro renforce son cœur. Comme c'est écrit, le cœur de Paro se renforça et il ne les écouta pas comme avait parlé Hachem. Il se tourna Paro, il vint vers sa maison et il n'appliqua son cœur à cela non plus. De nouveau, ici on voit que le cœur de Paro, on dirait qu'il fait sa vie, on dirait que c'est lui qui décide, c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige. Il refuse d'écouter ce que Moshe lui demande. Donc comme vous le savez, Moshe, il demande à Paro de laisser sortir les Juifs d'Égypte. Et à chaque fois, la réponse est la même, Paro ne veut pas, Paro refuse. Ensuite, on a la plaie des grenouilles, tsfardea en hébreu. De nouveau, je vous lis dans les mots, la traduction. Paro vit qu'il y avait un répit. Il alourdit son cœur et ne les écouta pas. Alors, c'est vrai que là, Paro, il commence à se poser des questions. Il commence à envisager de laisser sortir les Juifs d'Égypte. Mais non, très rapidement, de nouveau, son cœur s'alourdit et il refuse, il reprend sa parole. Il avait dit à Moshe d'enlever les grenouilles. Et dès qu'il n'y a plus de grenouilles, ça y est, de nouveau, c'est son cœur qui dirige. En vérité, c'est le cœur de Paro qui dirige l'Égypte tout entière, si vous vous rendez compte. On continue. Toujours dans la paracha de Vaera, ce que je suis en train de vous lire, donc la paracha de la semaine dernière, Paro alourdit son cœur aussi cette fois-là. Et il ne renvoya pas le peuple. Là, je vous ai lu que quelques références, mais ces trois parachutes sont truffées de ces expressions autour du cœur de Paro qui s'alourdit. Dans notre paracha, la paracha de Bo, vous savez, le mot Bo, ça veut dire « viens », d'accord ? On dit également, juste pour la petite parenthèse, que dans cette paracha, elle va nous raconter les trois dernières makotes, les trois dernières plaies. Et également, on voit dans le titre de la paracha, Bo, la gématria, la valeur numérique de 3, puisque Bo, c'est bête, ça veut dire valeur numérique 2, Aleph, valeur numérique 1, 2 plus 1, ça fait 3. C'est donc la paracha qui traite des 3 dernières plaies. Quelles sont les 3 dernières plaies ? La plaie des sauterelles, la plaie de l'obscurité et la plaie des premiers-nés, de la mort des premiers-nés. Et donc, dans le premier verset de la paracha, c'est écrit comme ça, Hachem dit à Moshe, viens vers Paro, car moi j'ai alourdi son cœur et le cœur de ses serviteurs. Alors là, Pitom, on s'aperçoit qu'il y a un changement. Jusqu'à présent, on voyait que dans les premières plaies, on voyait que c'est le cœur de Paro qui s'endurcissait. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et on voit que c'est Hachem qui endurcit son cœur. Et il faut comprendre, ça veut dire quoi qu'Hachem endurcit le cœur de Paro? Parce que si réellement c'est Hachem qui endurcit le cœur de Paro, alors quelque part Hachem enlève à Paro le libre arbitre, qu'on appelle en hébreu la prira chofshit. Et donc quelque part Paro, il est peut-être plus responsable de ses actes, mais c'est pas juif ça. Le propre du judaïsme, c'est de savoir que nous avons toujours le libre arbitre. Et donc les commentateurs se posent sur cette question, qu'est-ce que devient l'histoire du cœur de Paro ? Pourquoi est-ce que dans un premier temps, on voit que Paro endurcit son cœur, et dans un second temps, on voit que Akadosh Baruch Hu endurcit son cœur ? Alors, on va commencer à répondre, et ensuite on va un petit peu expliquer la place du cœur dans le service d'Hachem. Alors d'abord, il faut savoir que lorsque que le Rambam explique que réellement, au début, Paro s'entêtait, et c'est important de retenir ce terme, il s'entêtait à endurcir son cœur, il s'entêtait à refuser de laisser sortir les bénis Israël d'Égypte. Il faudra aussi qu'on comprenne pourquoi est-ce que Paro s'entête tellement. Ok, c'est vrai qu'il a des esclaves qui sont très pratiques pour lui, ils ne veulent pas s'en débarrasser, etc. Mais quand même, il voit son pays souffrir, les makotes, les plaies, c'était quelque chose quand même d'assez impressionnant. Pourquoi autant d'entêtement? Et le Rambam explique que si dans un premier temps, Paro, oui, s'est entêté à refuser de laisser sortir les Juifs d'Égypte, cet entêtement a créé une situation qu'Hachem, à partir donc du milieu des plaies, Hachem va lui endurcir son cœur en tant que punition. Ça va être une punition qu'Hachem va donner à Paro. Puisque tu t'es tellement entêté à faire le mauvais choix, à partir de maintenant, moi, Hachem, je te complique encore plus la tâche et je t'endurcis ton cœur. Mais attention! Même lorsqu'Hachem endurcit le cœur de Paro, il ne lui annule pas totalement le libre arbitre. C'est vrai que, et si on peut un petit peu prendre un exemple dans nos vies, okay, une personne, lorsqu'elle est face à un choix pour la première fois, imaginez-vous un enfant à qui on propose une cigarette, la première fois, le choix il est assez facile. On peut dire non. C'est pas qu'on n'a pas de tentation, mais c'est plus facile pour un adolescent pour une première fois de dire non que pour quelqu'un qui fume après 10 ans. Une personne qui fume après 10 ans, le niveau de son libre arbitre est moins important. Paro, au début, il avait le choix, mais il s'est entêté à faire le mauvais choix. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Lorsqu'Hachem voit que Paro s'entête, il lui dit « Écoute, maintenant tu mérites une punition pour cet entêtement. Quelle va être la punition ? Je vais faire en sorte que ton cœur soit encore plus dur et que si tu veux faire le bon choix, tu vas devoir lutter. » Chose que Paro ne fera pas. Paro, il va même faire encore moins bien que ça. Quelque part, il y aura des fois où il va se laisser un petit peu impressionner par la plaie et il va commencer à appeler Moshé en disant à Moshé, « Moshé, oui, je vais te libérer les Bnei Israël. Ok, arrête, stop la plaie, je t'en prie, stop la plaie. » Et au bout du compte, dès que la plaie stop, de nouveau, il se reprend. Qu'est-ce qu'on a ? Il se reprend, il dit, non, tout compte fait, non, je te les libère pas. Okay ? On apprend de là beaucoup de choses au niveau donc du caractère de Paro, qui est un exemple pour nous. En vérité, on sait très bien que lorsque dans la Torah, on nous parle de Paro, on fait allusion au mal, de la même manière que lorsqu'on nous parle du serpent, du Nahash qui a séduit Chava, ou lorsqu'on nous parle de Haman dans l'histoire de Purim, ou lorsqu'on nous parle de Esav. À chaque fois qu'on nous parle d'une force du mal dans la Torah, c'est pour nous apprendre qui est le mal, pour nous apprendre quels sont ces différents déguisements, ces différentes manières de fonctionner. Pourquoi ? Pour pouvoir nous aider à le combattre, parce que le but du juif est de combattre le mal dans ce monde. Donc, on apprend de Paro quelque chose. Paro est très entêté. Paro a une... D'ailleurs, vous savez que le nom de Paro même, ok, Peresh Ain, et le Arizal nous dit qu'il contient la racine de Oref. C'est quoi Oref ? Oref, c'est la nuque. Pour nous dire que le comportement de Paro était le résultat de ce qu'on appelle la nuque raide, chez Oref, l'entêtement. Je vous ai dit qu'il était entêté, Paro. Mais pourquoi est-ce que Paro est entêté ? Qu'est-ce qui l'amène à s'entêter tellement ? Eh bien, c'est une autre de ses mauvaises midotes. Un autre de ses traits de caractère, qui en vérité son trait de caractère numéro 1, qui est la Gaava. Paro se prend pour un dieu. Paro se fait passer pour un dieu. Paro est convaincu qu'il est le dieu de l'Égypte. Et donc lorsque Moshé vient et qu'il dit à Paro, libère les Bnei Israël, c'est Dieu qui te demande. Mais c'est qui Dieu ? Je ne connais pas de Dieu, je ne connais que moi. C'est moi qui suis Dieu, je ne connais personne. Mais en vérité, cette gava, cet ego, cet égocentrisme, cette cette mise en avant du moi, du je, on ne peut pas ne pas la comparer à l'amida essentielle de Moshe, qui est la anava, qui est la modestie. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme le plus modeste de tous les temps. Pour pouvoir amener au dévoilement de Dieu sur terre, il faut savoir être modeste. Il faut savoir qui on est, et être modeste, ça ne veut pas dire ne pas connaître notre valeur, ça ne veut pas dire ne pas connaître notre place. Non, 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 pas du tout. Mais c'est savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ici, on a une lutte entre Paro, qui est plein d'orgueil, et Moshe, qui est plein de modestie. L'orgueil de Paro, c'est celui-là qui va l'amener à s'entêter tellement. Pourquoi ? Parce que l'orgueilleux, il se dit... Mais qui c'est qui va me dicter quoi faire ? Vous connaissez déjà, ça vous dit quelque chose, ce genre de réaction à l'intérieur de nous parfois ? Parce que oui, on a tous à l'intérieur de nous une certaine forme d'orgueil. Alors vous savez, aujourd'hui, c'est très à la mode de dire que les gens n'ont pas confiance en eux et qu'ils doivent se renforcer en confiance en eux, etc. C'est très très à la mode. Mais il faut savoir que parallèlement au manque de confiance en soi, il y a également un phénomène que, oui, les gens ont quand même un travail à faire autour de la modestie. Parce que l'orgueil, il n'est pas toujours... On a l'impression parfois, lorsqu'on dit le mot orgueil, que c'est une personne qui est très très imbue d'elle-même, qui se vante devant tout le monde. Non, non, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça, être orgueilleux. Orgueilleux, c'est à chaque fois que je mets moi en avant, ma manière de penser, ma manière de voir la vie. C'est lorsque je n'accepte pas l'autre, lorsque je n'admets pas la manière de penser de l'autre, lorsque je suis convaincue que j'ai tout le temps raison. Ben, on a tout le temps raison, c'est connu qu'on a tout le temps raison. Non, ça c'est l'orgueil. Ça c'est Paro qui refuse de voir la vérité en face. La vérité, c'est que dans l'intérêt de son peuple, il doit permettre aux Juifs de sortir. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il ne regarde pas l'intérêt de son peuple. Il regarde une seule chose. Si... J'accepte qu'ils sortent, c'est quelque part que je me suis soumis. Mais comment, moi qui me prends pour un dieu, je vais me soumettre à qui ? À Moshe ? Ou à un dieu ? D'ailleurs, je vous rappelle, on avait parlé de ce point il y a quelques semaines. On avait dit qu'est-ce que Paro avait tellement avait vu chez Yosef, qu'il avait tellement impressionné au point de le nommer vice-roi d'Égypte. Et on avait expliqué que lorsque Yosef, après avoir passé donc 12 années en prison, était arrivé au palais de Paro, et le premier mot qu'il avait prononcé, Yosef, lorsque Paro lui demande est-ce qu'il sait interpréter les rêves, et Yosef de lui répondre « Bil Adai Elokim Yane et Shlom Paro »« C'est pas moi, mais c'est Hachem qui va répondre et qui va interpréter le rêve de Paro. » Paro avait été très impressionné. Pourquoi ? Parce que Yosef débute sa phrase par le mot Biladai, c'est pas moi. Et là, Paro, quelque part, il sent à l'intérieur de lui que cette personne qui est en face de lui, c'est Yosef, il est très fort. Il est très fort, il perd pas le nord. Il contrôle ses sentiments, il contrôle son cœur, exactement ce que lui, Paro, n'est pas capable de faire. Pour pouvoir gouverner un pays, il faut pas simplement être convaincu qu'on est les plus forts, comme le cas de Paro, mais il faut être capable de gouverner son propre cœur. On ne peut pas gouverner un pays si on n'est pas capable de gouverner son cœur. C'est comme une maman à la maison. Elle ne peut pas demander à ses enfants de faire quelque chose si elle-même, elle ne le fait pas, elle n'est pas capable de se contrôler elle-même. Ça ne peut pas marcher. Et ça, c'est ce que Paro, il avait vu chez Yosef. Et parce qu'en vérité, c'est ça la faiblesse de Paro. Paro, il est sûr de lui. Paro, il est imbu de sa personne, mais il ne sait pas contrôler son cœur. Son cœur s'endurcit parce que c'est pas son esprit, c'est pas son mohar, c'est pas sa tête, c'est pas son intellect qui commande, mais c'est son cœur. Et le cœur, c'est le siège des sentiments et c'est également le siège des régachotes, des midotes. On va en reparler si Dieu veut, Bezrat Hashem. Je vous propose juste de faire une petite pause. Si vous voulez nous envoyer un message, vous pouvez le faire à l'adresse mail suivante, radio@torah-box.com. On reprend si Dieu veut après la pause où on s'est arrêté. Restez avec moi, je vous attends. שמענו לפידים וראינו את הקולות, את האר השן למען השם, איך עוד הלב הזה ישן
בתור לקופה הראשית. ערפי לתור, לא בחיל ולא בכוח, רק בשם ומלכות. כשזה יבוא, זה יבוא, זה יבוא, בלי מקום לטעות. נבוב לוחות אם ללמד אלינו זכות על הרצון לשנות להסיר מסכות זמן לגילוי הפן זמן לגילוי לא רעב ללחם לא צמא למים רק דיבורים של אמת המסביעים את הלב ירידת הדורות כנראה הסיבה לעליית התורות בספרייה הראשית ערפי לתואר לא בחיל ולא בכוח רק בשם ומלכות כשזה יבוא, זה יבוא, זה יבוא בלי מקום לטעות מסביעים את הלב לא רב ללחם לא צם על המים עוד דיבורים של אמת
Et nous revoilà pour la suite de notre émission Judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Celles qui viennent de nous rejoindre, vous êtes les bienvenues. Et comme je le disais avant la petite pause, on essaye un petit peu de faire une analyse du cœur de Paro. Pas parce que on s'ennuie ou pas parce que on aime particulièrement Paro, mais parce que l'intérêt est de comprendre le mal pour réussir à le contrer. Parce que tout ce que la Torah, elle nous enseigne, tout ce que la Torah, elle nous raconte, même sur les personnages Rechaim comme Paro, ça vient, ce sont pour nous des enseignements. Surtout lorsqu'il y a autant de répétitions, lorsqu'il y a des phrases qui sont mamache copier-coller. Lorsqu'on parle de ces phrases du cœur de Paro qui se renforce, qui s'endurcit, on a l'impression que la Torah se répète. Alors, c'est vrai qu'on parle à chaque fois d'une autre plaie, pour la première plaie, deuxième plaie, troisième plaie, et c'est vrai aussi que quelque part, on dirait que la Torah veut nous apprendre quelque chose autour donc de comment notre cœur fonctionne, et surtout, comment réussir à contrôler notre cœur, parce que c'est en fait un petit peu tout ce qu'Hachem, il attend de nous. Hachem, il attend de nous à ce que, d'ailleurs c'est comme ça que c'est écrit, il y a écrit « Veyadata ayom vashevota elevavecha ». Tu sauras aujourd'hui, et tu ramèneras ça à ton cœur. Ça veut dire quoi? Il y a dans notre Avodat Hashem, dans notre lien avec la Torah, avec les mitzvot, dans notre judaïsme, deux étapes. Il y a l'étape de ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, comprendre les choses, analyser les choses, étudier les choses. Et ensuite, il y a l'étape de ramener ça à notre cœur. Ça veut dire quoi? Vivre avec ça. Parce que, comme je l'ai dit juste avant la pause, le cœur, c'est le siège des sentiments. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on vive notre Avodat Hashem avec lui. Il veut qu'on soit présent, qu'on ne soit pas simplement des robots qui faisons des mitzvot sans rien. Parce qu'en vérité, on sait bien qu'une mitzvah, par exemple, c'est un moyen de nous lier à Hashem. Et donc, c'est connu, par exemple, que lorsqu'on fait une mitzvah avec joie, avec simcha, on a un salaire mille fois plus grand, nous dit le livre Orchot Tzadikim, mille fois plus grand qu'une mitzvah qui est faite sans simcha. Maintenant, qu'est-ce qui va m'amener à réaliser la mitzvah avec joie? C'est justement lorsque j'y implique mon cœur, lorsque, après avoir compris, parce qu'on a dit que oui, on ne va pas se passer de l'intellect, on en a besoin, c'est lui qui va nous aider à comprendre, c'est lui qui va nous aider à étudier. Mais lorsqu'on aura compris, alors l'étape d'après, c'est d'y mettre son cœur. D'ailleurs, le Zohar nous dit « Rahmana liba ba'e » « Akadosh Baruch Hu » « Rahmana » c'est le miséricordieux, donc c'est Hachem. « Liba » c'est le cœur. « Ba'e » il veut, il désire. « Akadosh Baruch Hu » c'est notre cœur qui veut. Il veut qu'on soit ses serviteurs. D'ailleurs, vous savez, dans toutes ces parachutes qui nous décrivent la sortie d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Hachem dit à Moshe, « Libère mes enfants, veya avdoni, afin qu'ils me servent. » Que ce soit bien clair, Hachem veut nous sortir d'Égypte, veut nous sortir de l'esclavage de Paro, pour qu'on devienne, entre guillemets, ses esclaves. Mais attention, être les esclaves d'Hachem, c'est pas être des esclaves, c'est être les serviteurs d'Hachem, c'est être les enfants d'Hachem, c'est ressentir le mérite d'avoir, le mérite que nous avons de pouvoir accomplir cette Torah et ces mitzvot, parce que je vous le rappelle, et c'est quelque chose que je rappelle régulièrement, mais c'est important de se le dire, comme il dit le Messilat Yesharim, il y a des choses qu'il faut se répéter pour se les ancrer, et comme je l'ai dit, pour se les ancrer dans la tête, et pour que ça arrive également au cœur, pour qu'on le vive, que quoi? HaKadosh Baruch Hu, il a créé ce monde pour nous donner. Parce que HaKadosh Baruch Hu, il est le bien par excellence, il a voulu nous faire mériter de ce bien par excellence, comme ça nous dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Et comment nous faire mériter de ce bien? Comment nous donner le bien absolu? Alors le moyen qu'Hachem a trouvé, c'est à travers la Torah et les mitzvot. Parce qu'à travers la Torah et les mitzvot, nous nous connectons à Hachem, et comme lui, il est le bien infini, donc comme ça, nous aussi, nous pouvons toucher à ce bien à travers le fait de nous connecter à Kadosh Baruch Hu, de nous connecter à lui. Donc, Moshe cherche à faire sortir les Juifs d'Égypte pour les amener à servir Hachem. D'ailleurs, le but de la sortie d'Égypte va être Matan Torah, le don de la Torah. Lorsque les Israël arriveront dans le désert, ils vont se préparer à Matan Torah. Et le moyen de servir Hachem totalement, de la manière la plus complète possible, c'est de le faire également avec le cœur. D'ailleurs, vous savez que les Bnei Israël, dans la Torah, ont reçu une mitzvah de construire un tabernacle pour Hachem. Donc, dans le désert, ils vont construire le Mishkan. Moshe va donner les instructions, Betzalel et Aholiav, ce vont être les deux architectes du Mishkan. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de créer une maison pour Hachem ici-bas. Après le Mishkan, lorsque les Bnei Israël arriveront en Israël, ils vont conquérir la terre d'Israël, et puis il y aura premier roi Shaoul, ensuite il y aura David, le premier roi du royaume de Yehuda. David, toute sa vie, rêvera de construire le Beth Amikdash pour Hachem, mais ce n'est pas son rôle. David, il a un autre travail. David, il a le devoir de guerroyer, de combattre les Pélishtim. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas que le Beth Amikdash soit construit par quelqu'un qui a du sang sur les mains. C'est une notion en soi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas David qui a construit le Beth Amikdash alors qu'il en rêvait tellement? Je pense qu'un jour, si Dieu veut, on aura l'occasion de traiter de ce sujet. Ce n'est pas le moment aujourd'hui. Mais en tout cas, à savoir que les guerres de David étaient toutes des guerres qu'Akadosh Baruch Hu lui avait demandé. David n'a pas tué pour rien, jamais. Il ne tuait que sous l'ordre du Sanhédrin, que lorsqu'il fallait le faire pour protéger le Ham Israël. Malgré tout, Hachem veut que celui qui construira le Beth Amikdash sera Shlomo, le fils de David. Et oui, en fin de compte, c'est important que je vous rajoute une notion ici, parce que c'est vrai que ça va nous compléter cette histoire de cœur. Pourquoi est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles ce sera Shlomo qui construira le Beit HaMikdash et non David? C'est parce que, quelque part, les Chachamim disent que, étant donné que David n'avait pas la paix avec les pays qui entouraient donc son royaume, et qu'il faisait la guerre avec eux, il faisait la guerre avec les Pelishtim, etc. Alors les Chachamim nous disent, on sait que le Beit HaMikdash, et vous allez voir le rapport avec ce que je disais juste avant, on sait que le Beit HaMikdash, c'est un endroit qui va attirer la paix sur le monde. C'est une source de paix, c'est une maison de paix. Et donc, grâce au Beit HaMikdash, va régner la paix dans le royaume d'Israël, sous le roi Shlomo. Les Chachamim nous disent, étant donné que David avait beaucoup de guerres, alors peut-être qu'en construisant, si lui il avait construit le Beit HaMikdash, il y aurait eu dans ses intentions une toute petite parcelle, un petit pourcentage de vouloir construire le Beit HaMikdash pour avoir la paix, et pas uniquement à 100% pour construire une maison pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, que ce soit bien clair, David voulait construire une maison pour Hachem. David était l'amoureux, je dis « et » parce que David, Melech Israël, Chai Vekayam, David, il est tout le temps là. Et lui, sa vie, son objectif, toute sa lutte, toute son existence, il l'a voué à Akadosh Baruch Hu, à l'amour qu'il portait pour Hachem. Et donc, bien sûr qu'il voulait construire un Beit HaMikdash pour construire une maison pour Hachem. D'ailleurs, il dit David, comment est-ce que moi j'ai une maison et le maître du monde n'a pas de maison ici? Donc bien sûr que c'est pas pour lui qui veut construire un Beit HaMikdash. Néanmoins, les Chachamim nous disent que, et je crois que c'est le Rav Chaim Shmulevitz qui dit ça, si je ne me trompe pas, qui dit que néanmoins, étant donné que David n'avait pas la paix dans son royaume, peut-être qu'il y aurait eu un tout petit pourcentage, une toute petite pensée qui aurait été de construire le Beit HaMikdash pour avoir la paix et pas les gamrés et pas totalement les Shem Shamaim, comme on dit, pour Akadosh Baruch Hu. Par contre, Shlomo, lui, qui n'avait pas de guerre, alors là, on dit il avait aucune autre raison de vouloir construire le Beit HaMikdash si ce n'est réellement de faire une maison pour Hachem. Et en vérité, on revient à ce que j'étais en train de vous dire juste avant, c'est que les Chachamim, donc la Torah, pardon, ordonne de construire un tabernacle, de construire une maison, une diraba tartonim également, c'est appelé, une maison ici-bas pour pouvoir recevoir Hachem. Aujourd'hui, cette mitzvah, nous ne l'avons pas a priori, puisque nous n'avons pas encore le troisième Beit HaMikdash. Et si nous n'avons pas le troisième Beit HaMikdash, alors les mitzvot sont intemporelles, on a dit. Il y a des mitzvot, c'est vrai qu'il y a des mitzvot qu'on devra attendre la venue de Mashiach pour pouvoir avoir la chance de les faire. Mais il y a quand même un moyen d'accomplir certaines mitzvot qu'a priori nous ne pouvons pas accomplir. Par exemple, nous avons les mitzvot des korbanot. Donc à l'époque du Beit HaMikdash, les juifs devaient apporter des sacrifices. Évidemment, lorsqu'il n'y a plus de Beit HaMikdash, il n'y a pas moyen d'apporter des sacrifices. Mais pourtant, les Chachamim nous apprennent « Uneshal maparim sefatenu » qu'on peut remplacer, et on va remplacer les korbanot, les sacrifices, par les tfilot. À travers le fait de prier à Hachem, ça remplace le travail des sacrifices du Beit HaMikdash. Pareil pour la mitzvah de construire un tabernacle pour Hachem. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le construire, nous attendons Bezrat Hachem, la venue de Mashiach, pour avoir le troisième Beit HaMikdash, mais nous avons cet ordre qui est encore là et qui nous concerne, qui est de construire un tabernacle pour Hachem dans nos cœurs. Comme c'est écrit, Bilvavi Mishkan Evne. À l'intérieur de mon cœur, je construirai un tabernacle. Ça veut dire quoi, construire un tabernacle à l'intérieur de son cœur? Ça veut dire faire de son cœur un cœur pur, un cœur qui travaille ses midot, un cœur qui commande sa tête, un cœur qui commande sa tête. Ou bien on peut dire aussi à l'inverse, c'est la tête qui commence le cœur. C'est comme ça que c'est écrit, Moar Shalit à la lèvre. Le Moar, c'est donc le cerveau qui commande, qui dirige le cœur. Le mot qui est employé dans cette phrase Shalit, qui commande, c'est le même mot qui est employé pour dire un gouverneur ou un président, un roi, quelqu'un qui est cholette, quelqu'un qui gouverne. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que Paro ne savait pas faire, ce que Paro n'avait pas réussi à faire, à commander, à diriger son cœur. Et c'est exactement ce qu'Hachem nous demande à nous de faire. Il nous demande à nous de nous contrôler, il nous demande à nous de réussir à maîtriser nos traits de caractère. Et si je vous ai dit que le cœur était le siège des sentiments, il faut bien comprendre qu'un sentiment et une mida, une qualité, ce sont des choses qui se rejoignent et qui sont en total parallélisme. Lorsqu'on parle de jalousie, c'est un sentiment et c'est une mida. Lorsqu'on parle de la colère, c'est un sentiment et c'est une mida. Pareil pour la haine et pareil pour beaucoup d'autres. Donc il y a un véritable parallélisme entre les sentiments et les traits de caractère. A priori, en français, non. En français, non, ce serait deux choses différentes. Non, deux choses différentes, mais c'est vrai que dans le langage de nos sages, on nous parle donc d'un parallélisme entre ce qu'on appelle les regashot et ce qu'on appelle les midot, les sentiments et les traits de caractère d'une personne. Et ce qu'Hachem il attend de nous, c'est que qu'on travaille le plus possible, et c'est notre travail sur Terre, et c'est un travail au quotidien, surtout à l'intérieur de nos maisons, à l'intérieur de nos foyers, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu plus facile d'être gentil et agréable et souriant envers les gens qui sont à l'extérieur, envers les voisins, les gens dans la rue. C'est un peu plus difficile de se contrôler et d'avoir un cœur pur à l'intérieur même de sa maison, par rapport à son mari, par rapport à ses enfants, par rapport à ses parents. Et c'est ce qu'Hachem nous demande, et c'est comme ça que... et c'est notre travail. Et notre travail, il est donc de lutter, une expression que je vous rappelle souvent, de lutter contre le petit paro qui est à l'intérieur de nous. Et le petit paro, c'est ce qu'on appelle l'entêté. Le petit entêté, c'est paro. Paro, des lettres au ref, la nuque, à la nuque raide, il est entêté. Le Rav Friedlander, qui est l'élève du Rav Dessler, le Rav Chaim Friedlander, dont on a écrit de ses shiurim, une série de livres qui s'appelle Sifte Chaim, dit que l'entêtement est la plus grave des maladies. Il parle d'une maladie, une personne qui est entêtée, une personne qui n'en fait qu'à sa tête, une personne qui n'arrive pas à... Et le Sforno, d'ailleurs, comment est-ce qu'il décrit l'entêtement ? Il dit, c'est quoi une personne qui a une barre de fer ? Une barre de fer qui n'arrive pas à bouger ni à droite ni à gauche. C'est ça l'entêtement. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'envisager que peut-être il a tort, de se remettre en question. Et on l'a dit, quelle est l'origine de l'entêtement ? L'origine de l'entêtement, c'est l'égoïsme. On l'a dit tout à l'heure, l'orgueil. Tout est lié. Mais c'est plutôt l'orgueil dont on parle, l'orgueil donc de celui qui dit non, moi je sais, moi j'ai raison, les autres ne savent pas, les autres ne comprennent pas. Il faut savoir aussi, il y a une expression en hébreu qui dit que sur la route, lorsqu'une personne elle conduit, mieux vaut pas qu'elle soit forcément, qu'elle ait pas forcément raison, mais l'essentiel c'est qu'elle soit intelligente. Alti et tzodek, ti et chacham, on nous dit. Ne sois pas celui qui a raison, mais sois intelligent. Pourquoi ? Parce qu'une personne, lorsqu'elle conduit, elle pourra dire, oui, moi j'ai priorité, donc je passe, et puis s'il y a une voiture qui arrive à 200 km, non, je m'arrête pas, j'ai priorité, c'est à moi de passer. Ok, ta priorité, t'as raison. Mais si tu passes, Rassé Shalom, c'est la fin du monde, tu vas faire un accident, donc ne sois pas, n'aie pas forcément raison, sois plutôt intelligent. Parfois un petit peu cette règle sur la route, pas parfois un petit peu, même très souvent, elle est vraie également dans les relations et dans le travail du cœur, dans le travail des midot. Al ti et tzodek ti et chacham. Des fois c'est vrai que tu as raison, des fois ce que tu dis c'est vrai. Mais peut-être que c'est mieux que tu te taises parce que ça risque d'entraîner une dispute, ça risque d'entraîner de blesser quelqu'un. Al ti et tzodek ti et chacham. Ne sois pas forcément intelligent. Ne sois pas forcément celui qui a raison, mais sois quelqu'un juste d'intelligent, et c'est déjà énorme, et c'est déjà beaucoup. J'aimerais un petit peu, j'espère que vous êtes toujours avec moi, parce que je vais un petit peu vite, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc j'espère que vous ne m'avez pas lâché. Ah oui, j'ai oublié que c'est le moment de faire une petite pause. Je vous propose de reprendre vos esprits avec une petite pause, et je continue juste après, juste un rappel, celles qui veulent nous envoyer un message ou celles qui veulent nous laisser un mail, elles peuvent le faire à l'adresse mail suivante radio@torah-box.com. A tout de suite les filles.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
TorahBox, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le Gan, c'est la sauce Bédivré Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ichement, Mizvota, de garder le Mizvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous. Une question de Halakha, besoin d'un conseil personnel, avec le service Questions au Rav, les Rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, kashrout, conversion, loi de deuil. Questions au Rav. C'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.
Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite Léa Benaïm.
Voilà pour la dernière partie de notre émission Judaïsme au féminin aujourd'hui sur Torah Box Radio. Donc, je vous le disais avant la pause que j'aimerais, après qu'on a compris donc la place du cœur, on a parlé du cœur de Paro, on a compris la place du cœur, combien est-ce que c'était important de travailler autour de notre cœur, sur notre cœur, pour faire de lui un endroit où la Shrina pourra résider. Je vous rappelle qu'Hachem dit qu'un endroit, qu'une personne qui est orgueilleuse, Hachem dit lui et moi ne pouvons pas résider ensemble. Pourquoi? Parce qu'Hachem, c'est lui le, avec, on ne peut pas décrire Hachem. C'est lui le plus grand, c'est lui le plus infini, il n'y a pas de mots pour décrire qui est Hachem. Et l'orgueilleux, c'est quelque part celui qui dit oui, moi aussi, j'existe, je suis là. Et donc je vous ai dit que le Rav Friedlander, que je vous ai cité juste avant, le Rav Friedlander, élève de Rav Dessler, il nous dit comment est-ce qu'on brise cet entêtement. Il ramène des moyens dans une de ses sirotes sur le mois d'Eloul. Il se pose la question, comment est-ce qu'on peut réussir à contrer et à se défaire de cet entêtement? Parce que lorsque je vous dis que Paro il est entêté, malheureusement, on va revoir également que le Ham Israël aussi est un peuple entêté. Moshe Rabbeinu dira sur le peuple d'Israël qu'il est un peuple entêté. Et donc c'est vrai que c'est un travail que, oui, nous avons l'obligation de faire. Nous sommes un peuple à la nuque raide. Et cette nuque raide et cet entêtement et doit être prise dans le bon sens. On doit s'entêter pour faire une mitzvah, même lorsque c'est difficile. On doit s'entêter lorsqu'on veut avancer dans notre judaïsme. Parfois, il faut s'entêter. Parfois, il faut savoir faire preuve d'entêtement par rapport aux gens qui sont autour de nous. Par exemple, lorsque des gens doivent... On leur demande de travailler Shabbat ou dans toutes les mitzvot, il faut de l'entêtement. Donc, on en a besoin de cet entêtement. Mais c'est vrai que le mauvais entêtement, celui qui nous empêche d'évoluer, celui qui nous empêche de voir l'autre, celui qui nous empêche de ramener au cœur des choses qu'on sait, alors celui-là, il faut le briser. Et le Rav Friedlander nous donne plusieurs conseils. Je vais vous en ramener juste deux. En fait, il y a bien sûr la tfila, il y a bien sûr l'étude du moussard. D'ailleurs, vous savez, entre parenthèses, le Rav Volbe, qui a écrit le livre Aleshour, nous dit que c'est quoi le moussard? Il dit c'est les trakot à la emet, mi omek alev, lorak mi omek aserel. Il dit que ça veut dire quoi étudier le moussard? Ça veut dire quoi? C'est quoi la morale juive? C'est faire une enquête sur la vérité, du plus profond du cœur, et pas uniquement du plus profond de l'intellect. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, le Rav Volbe? Il veut nous dire, et donc c'est également un des conseils ramenés par le Rav Friedlander sur comment briser notre entêtement, à travers le fait de se poser des questions, à travers le fait, il parle, Ravolbe, d'enquêter. Il parle d'enquêter, il parle d'une recherche. Dans les mots du Rav Friedlander, faire un cheshbon nefesh ikvi, un bilan régulier. En vérité, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous conseiller ici, le Rav Friedlander et le Ravolbe? Pour réussir à briser notre entêtement, on est obligé de passer par des moments, des instants de ce qu'on appelle en hébreu « itbonenut », de réflexion, d'analyser par exemple nos relations avec quelqu'un. Lorsque par exemple on a une relation pas très agréable, une relation compliquée avec un des membres de notre famille, comme je vous ai dit, c'est ce qui arrive le plus souvent, on a beaucoup plus de difficultés souvent à gérer le côté relationnel avec les gens qui sont proches de nous que les gens qui sont plus éloignés. Qu'est-ce que nous conseillent nos Chachamim? De réfléchir, de prendre des moments où on va se poser la question. On va réfléchir à peut-être comment l'autre pense. Est-ce qu'il a vraiment, vraiment tort? Est-ce que c'est moi qui ai forcément raison? Est-ce qu'il y aurait des aspects de son raisonnement qui seraient peut-être, que je pourrais peut-être comprendre avec du recul? Est-ce que je pourrais me mettre à sa place? Est-ce que je pourrais réussir à un petit peu sortir de mon ego, de ma conviction que c'est moi qui détiens la vérité, pour comprendre qu'il peut exister plusieurs vérités? Et oui, c'est extrêmement important de faire ce cheshbon nefesh, d'avoir ces moments où on fait un bilan. Et de nouveau, comme chaque semaine, je vous recommande donc l'itbonenut. L'itbonenut, le moment où on parle avec Hachem, c'est le moment par excellence où on fait ce travail d'enquête, ce travail de recherche, ce travail qui va nous permettre en fait d'accomplir donc ce fameux verset « Ve'yadata ayom va'ashevota elevavecha » pour réussir à ramener tout ce qu'on peut avoir entendu à notre cœur pour en vérité réussir à se transformer. Parce que le judaïsme, c'est pas une, ce n'est pas un, comment dire, une science. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres, c'est vrai qu'il y a beaucoup de profondeur, c'est vrai qu'il y a, il y a énormément de choses à comprendre, à analyser, à découvrir, des merveilles. Mais le judaïsme, c'est avant tout un mode de vie, c'est avant tout, on dit que la Torah, c'est, vient du mot Hora'a, ça vient nous enseigner, nous apprendre à vivre. En hébreu, il y a également une expression qui nous dit quelqu'un qui étudie beaucoup, beaucoup, il est comme Hamor Nosse Sfarim, comme un âne qui porte des livres. Le juif, c'est pas ça. Le juif, c'est pas quelqu'un qui étudie juste pour enrichir son CV ou pour s'enorgueillir qu'il sait beaucoup de choses. C'est parce que ce qu'il étudie, c'est censé venir le transformer de l'intérieur. C'est censé venir lui permettre d'acquérir les choses au niveau du cœur, au niveau de sa personne. Pas uniquement au niveau de son QI. Et si déjà, donc on a dit, le Rav Friedlander propose pour lutter contre cet entêtement de faire un cheshbon nefesh ikvi, de faire donc ce bilan, de se poser les questions et d'essayer un petit peu de prendre du recul sur nous, sur nos midot, sur nos manières de réagir, sur qui je suis, sur qui nous sommes, pour essayer en fait d'être meilleur, pour essayer de comprendre quels sont les traits de caractère que nous devons travailler, parce que des fois une personne elle peut être convaincue que elle doit travailler, je sais pas moi, sa radinerie par exemple. Et en vérité, c'est pas tout à fait de la radinerie qu'il faut travailler, mais c'est plus son égoïsme. Et chercher de rechercher, essayer de rechercher à la source, qu'est-ce qui m'amène à agir comme ça. Par exemple, une personne, comme on a dit, qui sent qu'il y a du mal, qu'elle a du mal à donner la tzedaka, par exemple. Alors, elle pourrait croire que son problème provient du fait qu'elle elle est radine, elle est près de ses sous. Alors que peut-être, à travers une idée bonne et autre, à travers le fait de réfléchir, à travers le fait de se poser, à travers le fait, comme dit le Rav Volpe, de lui tracote, de faire une véritable enquête, alors peut-être qu'elle va découvrir que son véritable problème, il n'est pas vraiment au niveau de la radinerie, mais il est plus au niveau de la emouna, qu'elle manque de confiance qu'Hachem il est capable de lui donner, même si elle donne à la tzedaka. C'est un exemple que je vous donne. Mais c'est vrai que c'est extrêmement important de se poser des questions. Le Rav Volpe, il ramène l'exemple d'une personne qui a toute sa vie, elle a vécu dans une cave et n'a jamais vu la lumière du jour. Il sait pas. Il sait pas c'est quoi la vérité. Il sait pas c'est quoi le émet. Il sait pas c'est quoi. Il sait rien. Mais le jour où il sortira à l'extérieur et il verra la lumière, alors là, il verra combien est-ce que le monde est beau, combien est-ce que le monde est riche. Et il ramène cet exemple, Rav, en disant que c'est un petit peu comme une personne qui ne sait jamais analyser, une personne qui ne se pose pas de questions, une personne qui ne se remet pas en question. Il ne sait pas combien est-ce que sa personne, elle est complexe. Mais à partir du moment où il commence à se poser des questions, c'est là qu'il va commencer en vérité son acheminement vers la vérité, vers la lumière. Parce qu'une personne qui commence à se poser les questions de qui elle est, de quelles sont ses véritables midot à l'intérieur d'elle, alors là, elle va commencer à avoir la lumière. Parce qu'elle va se... C'est rien que en sachant qui je suis que j'ai la possibilité de travailler sur ma personne. Tant que je ne sais pas qui je suis, alors je ne sais pas quoi corriger. Et c'est extrêmement important pour ça d'avoir ces moments de nous avec nous, seuls, sans personne qui nous dérange, sans téléphone, sans ordinateur, sans personne qui vient nous parler, pour essayer de toucher le plus profond de notre personne, pour essayer d'écouter la voix de notre Neshama. On dit également, je crois que c'est le Chazon Ish qui dit ça, si je ne me trompe pas, qui dit que il y a plusieurs bonnes midot, bien sûr, et il y a également plusieurs, pas plusieurs, une infinité de bonnes midot et une infinité de mauvaises midot. Mais il y a une bonne mida et une mauvaise mida. Il dit la mauvaise mida par excellence, c'est quoi? Dans ces mots, aznachat ha'chaim ativim al ma'alacham ativi. C'est le fait de laisser aller la vie naturellement, sans se poser de questions, sans faire ce travail dont on en a parlé, sans faire le travail de bilan, sans faire le travail de recherche et d'enquête. Laisser aller tranquillement. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je crois que c'est le Chazon Ish, je ne suis pas certaine. Qui nous dit, en vérité, une personne qui fait ça, qui se laisse aller tranquillement, naturellement, c'est le mot qu'il emploie, Alma Alachama Tivi, naturellement, il ne se pose pas de questions. Il dit c'est la plus grande mauvaise mida. Et il dit quoi? Il dit c'est celui qui fait ça, celui qui se laisse aller comme ça, eh ben, croyez-moi, il va devenir un excellent orgueilleux, un excellent coléreux, un excellent jalouseur. On ne dit pas ça. Une personne qui jalouse de manière excellente. Il va devenir experte dans toutes les mauvaises midot. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est comme si qu'il y a des animaux sauvages à l'intérieur de lui. Et il les laisse s'entretuer. Il est absent parce qu'il ne se pose pas de questions. Et donc, c'est, pour le Chazon Ish, la plus grande mauvaise mida, la plus grande. Voilà, et j'aimerais maintenant donc vous ramener un deuxième conseil du Rav Friedlander pour ce qui est de briser cette Ukraine. Et c'est le conseil de ce qu'on appelle les petits changements. Oui, il parle de l'importance, et il n'y a pas que lui, le Rav Dessler également, en parle, tout le monde en parle, de l'importance de faire des petits changements, de ne pas faire des changements drastiques, mais de faire des petits changements dans notre quotidien pour briser donc ce qu'on appelle la nucrète, qui est très souvent, qui se traduit très souvent par l'habitude. On a l'habitude de faire des choses et donc on est entêté là-dessus, donc on n'envisage pas autrement, on n'envisage pas de se comporter autrement. Et le secret, c'est de faire des mini-changements. Comme je vous l'ai expliqué déjà, je pense, une fois, on raconte un jour que le Rav Volbe, il était en avion et il avait traversé un pays arabe. Et il s'est aperçu que lorsque l'avion traversait les pays arabes, il avait baissé d'altitude. Et donc il avait demandé aux hôtesses de l'air, mais comment ça se fait que l'avion est descendu comme ça? Et elle leur avait expliqué, lorsqu'on traverse comme ça des pays comme ça, on préfère que les radars du pays ne nous captent pas. Et donc, lorsqu'on baisse d'altitude, les radars ne peuvent pas nous capter. Et évidemment, le Rav Volbe, comme en vérité tous les tzadikim, lorsqu'ils entendent quelque chose, lorsqu'ils voient quelque chose, ils font toujours le rapport avec le judaïsme, leur service d'Hachem. Et il s'est dit, ah, j'ai compris, c'est comme ça le Yetzirara. Lorsque je baisse d'attitude, il ne me repère pas. Lorsque je fais des petits changements, il ne me repère pas. Une personne qui décide du jour au lendemain de faire tchouva, alors parfois elle a un grand Yetzirara. Pourquoi le Yetzirara vient et lui dit, ouais, tu vas jamais y arriver, c'est pas pour toi, c'est trop dur, c'est trop de changements, c'est trop d'exigences. Il a une force à nous convaincre malheureusement lorsque on parle de grands changements. Bah, au Hachem, même des fois dans ces cas-là, Hachem il nous aide. On voit des gens qui ont fait des tchouvot miraculeuses et spectaculaires. Je dis miraculeuse parce que vraiment parfois il faut un miracle pour qu'une personne elle abandonne tout son monde et elle décide de rentrer dans le monde d'Hachem. Et des fois c'est spectaculaire et c'est très rapide également. Mais c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle donc, le Yetzer Hara qui vient, qui essaye de nous casser lorsqu'on parle de grands changements. Lorsqu'on parle de petits changements, le Yetzer Hara, il se méfie pas. Quelque part, il se dit ça va, c'est rien, qu'est-ce qui se passe si elle rajoute un demi centimètre à sa jupe, il va rien se passer, ça va, elle n'est pas en train de devenir très religieuse, etc. Et donc le Rav Frilinder il nous dit, pour briser l'entêtement, pour briser la force de l'habitude, la mauvaise habitude, on a déjà expliqué qu'il y a la bonne habitude et la mauvaise habitude. Pour briser la force de la mauvaise habitude, faire des petits changements. Des petits changements même dans notre quotidien, dans notre manière de prier, dans notre manière de nous habiller, dans notre manière de nous lever le matin, dans notre manière de nous adresser à autrui. Tout ça, pourquoi ? Parce que ces petits changements brisent la force de notre entêtement. Alors, la vérité, c'est que je vous avais promis de parler également de Moshe, et puis je vois que je n'ai pas eu le temps, donc je pense qu'on analysera la force de Moshe Rabbeinu par opposition à la force de Paro, parce qu'on a dit que Paro, il avait une certaine force, qui était quoi ? Qui était que c'était la force du mal, qui s'entête à ne pas laisser sortir les Juifs d'Égypte. Face à Paro, on avait Yosef, et on a Moshe. Et donc Moshe, lui, c'est tout l'inverse. Moshe, c'est celui qui se domine, c'est celui qui est arrivé au plus haut niveau de modestie. Mais il y a encore beaucoup à dire sur Moshe. Je vous propose que Bezrat Hashem, on se retrouve à une prochaine occasion, pour une prochaine émission Bezrat Hashem, pour analyser un petit peu plus qu'est-ce qu'on peut apprendre de Moshe. Parce que c'est vrai que pour lutter, pour briser le mal, il faut également utiliser le bien. Là, on a parlé un petit peu aujourd'hui de la guerre contre le mal, de la guerre contre Paro, de la guerre contre l'orgueil, contre l'entêtement. Mais également, on va découvrir le travail par le bien à travers les personnages de notre tzadikim, si c'est en l'occurrence Moshe Rabbeinu et Bezrat Hashem. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous rappelle que si vous voulez nous envoyer un message, nous proposer quelque chose, nous écrire quelque chose, vous pouvez le faire à l'adresse mail suivante, radio@torah-box.com. On essaiera Bezrat Hashem de vous rappeler. J'ai passé un très bon moment avec vous. Et voilà, j'espère que ça vous a renforcé, j'espère que ça nous a renforcé, que ça nous a rapproché de la vérité, rapproché de nous-mêmes. Et à très bientôt.